Suivre Jésus, ce n'est pas une religion. C'est une relation qu'on veut avec Jésus. On ne veut pas juste venir à l'église pour venir à l'église. On veut venir à l'église pour adorer notre maître. On veut venir à l'église pour célébrer Dieu ensemble en assemblée. Pas juste parce que c'est le fun, pas juste parce que la musique est intéressante, pas juste parce que telles choses sont agréables pour nous, mais parce qu'on veut se présenter devant Dieu, pas pour notre intérêt personnel. Et c'est ça qui fait la différence entre la religion et la relation. Certainement qu'il y a des actions que Dieu s'attend de nous que l'on mette en œuvre, mais ce n'est pas de la religion, c'est la manifestation de notre amour pour lui, de notre obéissance pour lui. Alors, ce que Dieu nous demande, on veut obéir, c'est comme ça qu'on va lui manifester qu'on l'aime finalement. Alors, ce n'est pas uniquement dirigé à mon intérêt personnel, bien que j'en tire profit de cette relation-là. Alors, la première question, est-ce que tu suis Jésus uniquement pour ton intérêt personnel? Pose-toi cette question-là pour toi-même. Et la question de la crue un peu, de la bête un peu, mais à savoir, pourquoi je fais telle affaire? Pourquoi je fais cette chose-là? Pourquoi je fais cette chose-là? Et même en tant que croyant, c'est bien que de se poser la question aussi. Quand on va venir à la table du Seigneur la semaine prochaine, bien c'est bien qu'on n'en vienne pas juste à une pratique religieuse, mais qu'on se dise, pourquoi je fais la table du Seigneur ce matin? C'est parce que je veux me souvenir de la mort du Seigneur. Je veux me souvenir qu'il m'a donné sa vie. Et puis là, tout à coup, on donne vie à ça dans notre cœur, si je peux dire, parce qu'on y prend part, pas d'une façon religieuse, mais d'une façon où on veut plaire au Seigneur. Mais si tous les aspects de notre vie, de notre relation avec Dieu, est dans le but de tirer intérêt personnel, ça pourrait être un indice qu'il y a quelque chose qui cloche dans ma relation avec Dieu. J'ai une deuxième question à vous poser. Comment est-ce que tu vis avec le péché? Comment est-ce que tu vis avec le péché dans ta vie? J'aimerais vous inviter à tourner dans 1 Jean. 1 Jean 1. On va commencer, on va lire quelques textes. 1 Jean est vraiment intéressant à lire justement pour se poser ces questions-là, à savoir comment est-ce qu'elle est ma relation avec Dieu? Est-ce qu'elle est vraie? Ou est-ce qu'elle est, on va dire, hypocrite, ou est-ce qu'elle est juste entourée de cette illusion-là que je marche pour Dieu? Alors, il y a plein de choses comme ça où ce qu'on pourrait lire dans 1 Jean. Mais on va juste en relever quelques-unes en ce qui concerne particulièrement le péché. 1 Jean 1, 5, 6 et 7. Commençons par là. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, ben nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans la personne de Dieu, il n'y en a pas de péché. Il n'y en a pas de ténèbres. Puis si je dis que moi j'ai une relation avec Dieu, avec Jésus, je le suis, et que dans le fond je marche dans les ténèbres, bien il y a un problème. En fait, c'est ce que Jean dit, tu es un menteur. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, bien là on est mutuellement en communion. Il y a une communion qui existe, qui est à double sens. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché au travers de cette marche-là. Parce que je marche dans la lumière. Mais si je marche dans les ténèbres, bien, je suis un menteur. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Tournez juste un peu plus loin dans 1 Jean, chapitre 3. On pourrait aller versets 7 à 10. Enfin, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Jean, c'est noir et blanc. Hein? Si on pratique la justice, c'est parce qu'on est des enfants de Dieu. Si on pratique le péché, c'est parce qu'on est des enfants du diable. Si je pratique le péché et que je vis bien là-dedans, ben il y a un problème avec ça. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas de conscience? Je crois même que les enfants du diable et les inconvertis en ont une conscience du bien et du mal. Mais je pense qu'ils vivent bien avec cette conscience-là qui les accuse. Parce qu'ils peuvent continuer de pratiquer le péché. Mais un enfant de Dieu, c'est plus que ça. Il a l'Esprit en lui. Et l'enfant de Dieu sait bien qu'il est une nouvelle création et qu'il appartient à Dieu. Et il ne peut pas pécher. Il ne peut pas continuer de pécher dans sa vie et de le laisser rouler comme ça dans sa vie sans rien faire. En fait, regardez le verset 9. Fin du verset 8, « Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Jésus il est venu pour détruire le péché, pour détruire les œuvres du diable. Alors, si Jésus est notre maître, on ne va pas pratiquer les œuvres que Jésus a détruites. Verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il ne péchera pas l'enfant de Dieu? Est-ce que ça veut dire que si vous faites un péché, c'est parce que vous n'êtes pas un enfant de Dieu? C'est pas ça que ça veut dire. En fait, on pourrait juste reculer même encore dans 1 Jean. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Alors oui, on en a des péchés. Sauf que la différence, c'est qu'on ne le pratique pas. Puis si on pêche, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le confesse. Alors, on fait juste tourner une autre page plus loin, 5-18 dans 1 Jean. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. L'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Si tu vis bien avec le péché, si tu le pratiques dans ta vie, c'est peut-être signe qu'il y a un problème. C'est peut-être signe que l'Esprit de Dieu n'est peut-être pas là et peut-être qu'il te convainc de pécher. Peut-être qu'il te dit « oui, tu as du péché, il y a une conscience qui est là, mais tu vis bien avec ce poids-là ». C'est peut-être signe qu'il y a un problème. On pourrait soulever l'exemple de David. On ne lira pas le psaume, mais le psaume 38, David, quand il a péché, c'est lourd. Le poids de son péché sur ses épaules est lourd. Et je ne pense pas qu'il aurait vécu des années jusqu'à sa mort avec le péché non confessé. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché et un enfant de Dieu ne tolère pas le péché non confessé sans qu'il vive la lourdeur de son poids, du poids de son péché sur ses épaules. Quand on est un enfant de Dieu et que l'on pêche, immédiatement notre conscience nous le dit. Immédiatement le Saint-Esprit nous le dit. Et si on ne le confesse pas tout de suite, ben, ce poids-là va s'alourdir. Et David était proche de Dieu. À un moment donné, il avait péché et il relevait sa main. La main de Dieu s'apesantissait sur lui. Il n'avait plus de force. Son fardeau, il était lourd. Il était rongé par l'intérieur. Il avait un mal brûlant. Il disait que ses proches s'éloignaient de lui, probablement parce que lui-même exprimait la lourdeur de son péché. Il commençait à perdre l'espérance, même devant ses ennemis, à cause de son péché, peut-être parce que ses yeux étaient détournés de Dieu. David, est-ce qu'il pouvait vivre avec le poids de son péché non confessé? Il avait hâte de régler ça. Puis il disait, c'est lourd sur mes épaules, puis il faut que je règle ça. Mais si je fais du péché, je le pratique, je ne le confesse pas, puis je suis capable de vivre longtemps avec ça, c'est peut-être signe qu'il y a une relation qui est vaine. Je ne suis pas en train de révéler des choses sur vos cœurs. C'est à vous à sonder vos cœurs avec l'Esprit de Dieu. Et encore là, on pourrait penser, oui, mais telle personne qui abandonne puis qui continue, est-elle vraiment une enfant de Dieu ou une enfant du diable? C'est à cette personne-là à se sonder. On ne sait pas la lourdeur de son péché qui pèse sur ses épaules présentement. Nous, en apparence, on n'est pas capable de voir comment est-ce que cette personne-là vit la lourdeur de son péché. Mais c'est pour ça que nous, on a à se concentrer sur nous-mêmes. Comme ces personnes-là qui ont peut-être abandonné Dieu ou apostasié la foi, à un moment donné où ce qu'ils se disent, à un moment donné où ce que l'Esprit leur met du poids sur les épaules, et puis ils vont en venir à être confrontés à leur propre péché. Et évidemment, ils ne vivront pas la joie de leur salut à ce moment-là non plus. Alors, un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Un enfant de Dieu ne vit pas bien avec le péché non confessé. Puis celui qui, puis quelqu'un qui n'est pas sauvé, mais il peut pratiquer, il peut pécher, sa conscience va lui parler, mais il va vivre relativement bien avec ça. Puis j'aimerais donner un exemple à ça. Et je ne peux pas révéler clairement ce qui s'est passé dans le cœur de cette personne-là. Tournez dans Jean 12. Ce que je veux faire ressortir ici, c'est pas tant peut-être l'émotion ou la lourdeur qu'il y avait sur le poids de Judas à son péché, mais révéler des actions à partir de la vie de Judas. Et Judas, est-ce qu'il s'est révélé méchant seulement à la fin quand c'est venu le temps de trahir Jésus? Bien, évidemment, ça a été l'apogée de sa trahison. Mais on voit plutôt dans les Écritures que Judas, même avec Jésus, pratiquait le péché. vivait avec le péché. Regardez dans Jean 12, on va couper le texte un petit peu, verset 3, Jean 12, 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Bonne intention, Judas, hein? Mais regardez verset 6. Il disait cela non parce qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il tenait la bourse. C'était un disciple qui suivait Jésus, un apôtre Judas, il était là, puis c'est lui qui s'occupait des finances. Et puis j'imagine que lui, il voyait peut-être son intérêt personnel aussi. Hey, si Jésus est le roi, imagine l'établissement du royaume, et moi qui va tenir les finances. Eh boy, hein? Alors Judas, il suivait Jésus, et puis il ramassait les argents, puis il prenait ce qu'on y mettait. La question que je comprends pas, comment Judas a pu regarder Jésus dans les yeux et dire « Hey, on aurait pu vendre ça aux pauvres et avoir 300 deniers » en ignorant complètement que Jésus connaissait son cœur. Je comprends pas ça. Mais Judas a l'air de bien vivre avec ça. Judas avait l'air de bien vivre à prendre l'argent qui était dans la bourse. Et même à regarder Jésus puis lui à être hypocrite avec lui puis à lui révéler ça. Et on connaît la suite de l'histoire de Judas. Judas, sa relation avec Jésus, elle était superficielle, elle était à sens unique. Il profitait uniquement d'être collé à Jésus sans avoir une relation avec Jésus, une relation comme un enfant de Dieu a avec son Dieu, avec son Père, son Sauveur. Et pourquoi est-ce que Judas a fait ça? Ben, on ne sait pas. Mais il a vécu avec ce péché-là. J'aurais pu soulever différents exemples dans les épîtres de Paul, et peut-être qu'il y a des nuances à ajouter dans les épîtres de Paul, où peut-être c'est des gens qui avaient la foi, qui connaissaient Jésus, puis à un moment donné ont apostasié la foi, se sont détournés de la vérité, se sont détachés de la vérité, pour commencer à suivre leur propre hérésie, comme des gens, par exemple, qui disaient « la résurrection a déjà eu lieu ». Et ces gens-là, c'était des hérétiques, c'était détournés de la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur cœur? Qui ils sont? Est-ce qu'ils sont des enfants de Dieu? On ne le sait pas. Mais Dieu, le verset dans 2 Timothée, je fais juste vous citer le verset, vous le lirez, 2 Timothée 2, 19, « Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. » Ça, c'est Jean 10. Le bon berger connaît ses brebis. Puis quand il parle, ses brebis l'entendent, puis ils viennent à lui. Et Dieu connaît ses enfants. Il sait qui ils sont. Il connaît vos cœurs. Il connaît mon cœur. Et ce fondement-là, il ne change pas. Il demeure stable. Et Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et on a à se sonder nous-mêmes. Comment je vis avec le péché? Est-ce que je vis bien avec ça? Je le pratique, je le tolère, puis je fais ça aller. Ça pourrait être signe qu'il y a un problème avec ma relation avec Jésus. Parce que si Jésus est mort pour mes péchés, je n'ai pas envie de les refaire. Ma conscience m'accuse rapidement que je ne devrais plus pratiquer ça. Si je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas voler comme Judas faisait. Si je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas mentir, je ne peux pas entretenir le mensonge, je ne peux pas donner de faux témoignages. Si je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas accepter les médisances, les mauvaises paroles, le manque d'amour. En fait, on aurait pu continuer de lire un Jean, puis finalement, cette manifestation-là aussi, notre relation avec Dieu, va être directement avec mon frère et ma sœur, dans l'amour que je vais pratiquer envers mon frère et ma sœur. Et si j'haïs mon frère, ben Jean, il dit, tu es un meurtrier, tu es comme un meurtrier. Et je ne peux pas entretenir cette haine-là. Je ne peux pas ne pas aimer mon frère. Et si ces choses-là sont entretenues, sont pratiquées pour un enfant de Dieu, rapidement, Dieu va venir lui parler à son cœur. Une troisième question. Première question, pourquoi est-ce que tu es Jésus? Est-ce que c'est pour uniquement ton intérêt? Deuxième question, comment est-ce que tu vis avec le péché? Puis troisième question que j'aimerais vous poser, est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que Jésus est le maître de ta vie? Est-ce que tu te considères comme un disciple de Christ? Être un disciple, c'est de suivre le maître. C'est d'appartenir au maître, de faire ce que le maître veut. Et on ne peut pas dissocier Seigneur et Sauveur. On aimerait pouvoir dire, je vais nuancer en cours de route. Mais il y avait des gens qui venaient voir Jésus, puis Jésus, laisse-moi te suivre. Mais laisse-moi aller faire telle affaire, laisse-moi faire ça, laisse-moi régler telle affaire. Puis finalement, Jésus les retournait, puis ces gens-là ne suivaient pas Jésus. Est-ce que je peux seulement bénéficier d'une relation de « OK, Jésus, pardonne-moi mes péchés, mais je n'ai pas envie de te suivre tout de suite. Je n'ai pas envie de t'obéir tout de suite. Je vais laisser ça aller, puis à un moment donné, quand je serai prêt, tu seras mon Seigneur. » Ben, si Jésus est ton sauveur, il est ton Seigneur. Il est le maître de ta vie. Si tu es un disciple de Christ, tu veux que Jésus soit ton maître. Est-ce que ça veut dire que s'il est ton Seigneur, que tout va devenir parfait maintenant dans ta vie, tout va être réglé, maintenant ton obéissance va être parfaite et tu vas manquer de rien dans l'obéissance que tu vas lui donner? Non, c'est pas ça. Mais au jour le jour, dans la marche avec ton Seigneur, où ce que Dieu va te dire, où ce que Jésus va te dire, cette chose-là, il faut que tu le règles. Est-ce que je vais être prêt à sacrifier ma volonté, sacrifier mon être pour dire « Oui, maître, parce que je veux t'obéir. » Et si je ne suis pas prêt à dire ça à Jésus, c'est peut-être parce qu'il n'est pas mon maître. Et si Jésus n'est pas mon maître, il n'est pas mon sauveur.